Salut, salut, on est sur russie.fr. Je suis avec Madeleine Leroyer.
Bonjour.
Salut Madeleine.
Salut, salut. Привет.
On est là pour parler de précisément du livre Une vie de pintade à Moscou, que j'ai lu, que je recommande à tous, puisqu'il regorge d'informations croustillantes sur le mode de vie de la femme en Russie.
Oula.
C'est un livre que j'ai trouvé très documenté et surtout très inhabituel au niveau de son point de vue. Ça nous parle un petit peu des coulisses de la féminité russe, quelque chose qu'on connaît très mal en France. Et ça regorge d'anecdotes assez croustillantes sur toutes les facettes de ce que c'est qu'être une femme en Russie aujourd'hui. Tu peux te présenter en quelques mots ?
Alors, je peux me présenter en quelques mots. Donc, Madeleine, j'ai 27 ans, je vis et je travaille à Moscou depuis septembre 2008. Je suis journaliste. Je travaille pour plusieurs médias français et francophones, radio, presse écrite, télévision. Et puis, je me suis immergée dans la basse-cour moscovite pour parler des pintades avec beaucoup, j'espère, d'affection. Parce que c'est ça le principal objet de ce bouquin. Pour moi, c'est un grand cri du cœur pour Moscou et pour ses habitantes.
Effectivement, et ça se ressent très fort. J'avoue, je m'attendais à un livre féministe, au sens pas forcément le plus positif du terme. Et j'étais très surpris en lisant ce livre de voir qu'il n'y avait aucun jugement qui était porté sur tout ça, que c'était assez factuel et très très fourni d'informations inattendues, parfois très drôles, d'autres fois un peu plus dures parce que la vie n'est pas facile pour les femmes en général et aussi en Russie. Voilà, en tout cas, Une vie de pintade à Moscou, c'est un bouquin qui en apprend beaucoup, je trouve, sur la Russie. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. J'ai vu quelque part dans ton livre que la femme était le meilleur atout de la Russie.
Alors, c'est pas tout à fait moi qui le dis, c'est une citation de Ilya Tensipel, qui est le fondateur, un des fondateurs de la maison d'édition Afisha, du magazine Afisha, puis qui est ensuite devenu un vrai groupe, et qui maintenant est à la tête du projet Strelka à Moscou sur Krasny Oktyabr, donc un des lieux vraiment les plus en vogue. Strelka, évidemment, pour ceux qui ne sont pas moscovites, c'est une école d'architecture, de design, adossée à un restaurant club, avec l'été une des terrasses les plus fréquentées de Moscou. Voilà, et il incarne un petit peu cette envie de vivre différemment, et ça fait partie des gens d'ailleurs qui n'ont pas attendu qu'il se passe plus ou moins des choses sur la scène politique pour prendre des initiatives, voilà.
D'accord.
Et donc lui dit, il reconnaît d'ailleurs entre les lignes que les hommes, ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, ils n'ont pas tout à fait répondu au rendez-vous de la transition post-soviétique. Et il dit qu'effectivement les femmes sont le meilleur atout, dans le sens où elles portent le pays, et je pense que lui il le disait aussi avec beaucoup d'affection, où elles l'inspirent. Voilà, où elles sont un peu, on retombe sur la figure de la femme russe en tant que muse, mais voilà, il le disait comme ça. Et moi, alors bon, ça c'est pour lui, moi je suis assez convaincue que c'est un des meilleurs atouts, mais je pense que les femmes aimeraient qu'il en soit autrement.
D'accord.
Les femmes, je pense, aimeraient, en tout cas celles que j'ai rencontrées, elles aimeraient avoir des hommes qui soient des compagnons de vie, donc avoir un homme dans leur vie, ce qui n'est pas, et elles aimeraient qu'ils aient une place plus, responsable,
d'accord,
pour le dire comme ça.
C'est vrai, voilà. Que ce qui transparaît au travers de ton livre, c'est que les femmes ont vécu une transformation assez considérable ces 10-15 dernières années. Et on soupçonne assez mal d'ici, on arrive toujours avec un a priori sur la femme russe qui est très stéréotypée, c'est la bimbo russe, super jolie, incroyable, ça flash au niveau des hommes, les femmes françaises en sont souvent jalouses. D'ailleurs, je crois que tu commences ton bouquin,
oui,
un petit peu comme ça,
ah, oui, oui,
en disant, si je peux juste lire une phrase, J'ai bien failli leur décerner avec aigreur la palme mondiale de la gallinacée sans cervelle. Et c'est comme ça que
je ne l'ai pas fait.
Et tu n'as pas fait.
Voilà. Non, mais c'est évident que ce cliché existe. Il existe non sans raison, mais moi j'essaie de le déboulonner parce que je crois que derrière ces créatures qui font tellement fantasmer tout le monde, il y a des êtres humains dotés évidemment d'intelligence, de courage, etc. Et souvent extrêmement surprenantes. Enfin, c'est justement quand on est dans les premiers moments comme ça d'approche un peu jalouse, on rencontre des filles qui non seulement sont très apprêtées, très jolies, qui sont plus dans la vulgarité quand même. Globalement, en tout cas à Moscou. Moi, je pense qu'on est loin, les années 90, c'est terminé.
En tout cas, en apparence.
Voilà, et qui sont très, très cultivées, très. Je veux dire, c'est en fait, c'est intéressant parce que justement, un livre féministe, moi, je pense que. Moi, je suis féministe, mais je trouve qu'il y a un pont à construire vers une forme de féminisme réconcilié avec la féminité. Et alors les Russes, elles ont la féminité, ça c'est sûr. Le féminisme, non, mais ou alors s'il existe, il est surtout jamais formulé.
D'accord.
Jamais une femme dira je suis féministe. Ou alors elle a vécu 15 ans en Europe, donc ça compte pas.
On va y revenir.
Ouais.
En tout cas, ça part d'un constat au départ où les femmes sont très apprêtées, elles sont très belles, elles prennent un soin très particulier d'elles-mêmes. Qui effectivement se voit. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de la mode, du maquillage? Est-ce que Moscou, la Russie et Moscou en particulier, est la capitale de la mode aujourd'hui?
C'est vrai que c'est la capitale de l'envie de mode, parce que c'est pas la capitale de l'industrie de la mode, parce qu'il n'y a pas, d'industrie textile, les créateurs sont un peu plus confidentiels, mais c'est la capitale de cette envie de nouveauté, de beauté, et avec, c'est vrai, des...
C'est-à-dire qu'elles essayent énormément de choses.
Elles essayent, oui, c'est ça, de l'expérimentation aussi. Je pense qu'elles sont beaucoup plus audacieuses. Je regarde les Parisiennes dans la rue. Les Parisiennes, elles ont une espèce d'élégance naturelle qui est assez déroutante d'ailleurs. Elles sont pas coiffées, mal chaussées, enfin pas très bien chaussées, machin, mais elles ont toujours un petit accessoire. Et c'est quoi qui fait cette petite chose? C'est pas tout à fait le cas des moscovites. Il y a beaucoup plus de boulot. À l'inverse, elles ont vraiment un goût de la mode. Et d'ailleurs, quand on est française, elles ont tendance à nous remonter les bretelles en disant « Mais attendez, vous n'incarnez pas votre héritage, en fait. »
C'est-à-dire qu'elles voient la française comme négligée? Je pousse un peu le...
Presque, oui. C'est-à-dire, pas entretenue, pas très bien maquillée, s'habillant pas pour travailler ou très peu. Et surtout, en fait, elles vouent à la culture de la mode et de l'élégance française un culte sans bornes. Et donc quand on arrive avec son pantalon tire-bouchonné, sa chemise parpassée, son cheveu mal coiffé, elles disent « Mais attendez, vous savez que vous êtes le pays de Dior, de Coco, de Mademoiselle, de Chanel, etc. » Voilà. Donc elles ont un vrai truc. Et vraiment, moi je pense qu'on n'est plus du tout dans le bling-bling, dans la vulgarité, dans l'outrance. Il y a des excès, sinon on s'ennuierait à Moscou, on ne s'ennuie pas à Moscou. Il y a des excès, mais qui sont des excès d'expérimentation. C'est des femmes qui, voilà, qui
Alors,
vont.
Pour illustrer ça rapidement, j'ai lu une phrase de ton livre. Xenia, c'est donc une femme russe que tu as rencontrée, raffole de tout ce qui effraie la commune des mortels. Le latex, les imprimés panthères et léopards, le cuir, les plumes. Londres l'inspire, Paris l'emmerde, Moscou la comble. C'est une ville où tu peux tout essayer, tu peux jouer différents personnages, personne ne te regarde de travers. Au contraire.
Oui, mais alors typiquement, cette Xenia, elle est un jour un peu princesse, l'autre jour un peu punk, le troisième vieille aristocrate. Elle joue sur plusieurs registres et elle est, alors pour le coup, c'est toujours bien dosé. Elle est pas dans la bimbo. Voilà, et en fait, c'est ça qui est déroutant. C'est qu'au premier abord, on voit une armée comme ça de filles aux jambes longues. Et le truc, c'est qu'en plus, elles commencent à avoir ce sens, ce goût, peut-être, je sais pas, mais elle me bluffe. Elle me bluffe beaucoup.
D'accord. Tu racontes aussi, je me souviens d'un petit matin à l'arrivée du train de nuit Saint-Pétersbourg-Moscou. Quand j'ai ouvert l'œil, mes trois compagnes de compartiment étaient déjà sur le pied de guerre, miroir de poche en main, déterminées à effacer toute trace du voyage. D'abord le fond de teint en petites touches sur des imperfections, puis lissées sur tout le visage, blush, fard à paupières, mascara, crayon et rouge à lèvres, appliquées d'une main étonnamment sûre, comme insensible aux à-coups des aiguillages. Autrement dit, une sacrée expertise.
Oui, une sacrée expertise. Et là, c'est bon. Et moi, j'ai voulu aussi jouer un petit peu sur ce décalage culturel. Alors, pas toujours être la française mal coiffée, mal maquillée, mais en tout cas, c'est vrai que oui, une expertise. Et ce que je dis, c'est qu'en fait, moi, mon interprétation, ou en tout cas, une de mes interprétations, c'est que c'est une société difficile, une ville difficile, et que la beauté est à la fois recherchée en tant que telle, mais aussi utilisée comme une arme, comme une armure, comme une carapace pour affronter cette société qui est vraiment, je trouve, assez musclée, quoi, assez difficile.
D'accord, c'est étonnant du coup comme carapace de s'habiller derrière finalement des élans de féminité qui paraissent assez...
Mais parce que c'est une carapace, comment dire, qui déroute, qui permet de, en tout cas, d'amadouer l'adversaire, ou pas l'adversaire, mais disons les hommes, de façon plus évidemment un petit peu plus subtile. Mais moi, je pense que c'est ça, s'il y a un côté, et puis il y a un côté revanche, évidemment, on peut pas parler de tout ce culte de la beauté et de la mode sans parler du passé soviétique, où tout ça est tout simplement interdit, inaccessible, et que trouver un rouge à lèvres, c'était des trésors d'ingéniosité, que, je veux dire, c'est comme ma grand-mère après la guerre, c'est des filles qui se dessinaient le bas couture au crayon sur la jambe nue. Voilà, donc c'est ça, elles vengent aussi la frustration de leur mère, de leur grand-mère.
D'accord. Et pour revenir à un petit stéréotype qui va illustrer tout ça, on ne va pas rester sur les stéréotypes, mais je pense que tout le monde, toutes les personnes qui sont allées à Moscou un jour ont vu des filles en mini-jupe et talons aiguilles en plein hiver se dandiner sur la glace et ne pas tomber et réussir quand même à se déplacer malgré des conditions qui sont quand même extrêmes et certainement pas faites pour le talon aiguille.
Non.
Et alors tu les as suivies pour savoir comment elles font?
Non, mais c'est vrai qu'à un moment je me suis dit c'est pas possible. Et moi, la caissière du supermarché d'en bas qui m'avait un jour ramassée comme ça, étalée sur les marches, m'avait dit c'est le pic à glace, tu planques le talon, c'est le pic à glace. Tu plantes le talon aiguille, ça t'assure en fait. Bon, d'accord. J'étais quand même très sceptique, donc j'ai fait cette petite filature. Et en fait, bon, c'est vrai que le pic à glace, ça marche à condition de ne pas être pressé. Hein, parce que globalement, courir sur le verglas là, en talon aiguille, ça devient un petit peu compliqué. Mais... Donc elles ont cette démarche comme ça de petits pas souples, tout, pas trop, surtout pas trop presser le pas. Non, c'est marrant. Mais elles y arrivent très bien. Moi pas.
D'accord, j'ai trouvé ça très marrant en tout cas. C'est vrai que ça explique des choses qui paraissent à l'œil nu inexplicables.
J'ai percé le mystère de la talon aiguille.
Ensuite, alors, ces parades, ces tenues qui sont extraordinaires souvent. Tu dis que chaque femme a plusieurs personnages, elle joue de ça avec talent. Il faut qu'elle se les procure et il y a tout un chapitre sur le voyage, sur le shopping qui m'a aussi frappé. C'est que même si c'est plus facile aujourd'hui de se procurer des tenues de toutes les modes du monde, même d'astuces assez incroyables pour se procurer leur panoplie, si je puis dire.
Oui, alors ça évidemment c'est pour les femmes de la classe moyenne, mais on voit de plus en plus, l'exemple typique sans faire un voyage spécialement dédié au shopping, ce serait de partir en vacances, la valise pas très remplie, et de revenir avec une radia de vêtements. Et puis après, il y a effectivement des choses qui m'ont beaucoup intriguée, c'est que maintenant sont apparus des voyages organisés pour le shopping, avec par exemple des Russes qui vivent à Milan. Et qui organise des safaris shopping avec un guide qui est souvent une jeune russe qui étudie le design, la mode à Milan, dans une grande maison de couture, qui va guider les clientes. Ça a un coût évidemment, mais on se rend compte que des femmes, d'ailleurs y compris qui ne sont pas richissimes, hein, qui vont gagner un salaire moyen, eh bien, sont capables justement d'économiser un mois, voire deux mois de salaire pour aller faire leur garde-robe. Mais ça, il faut bien dire que c'est parce que Moscou est relativement cher. Toutes les marques occidentales sont importées avec des droits de douane qui sont assez conséquents, donc c'est assez cher. Et encore une fois, bah, y a encore peu de créateurs locaux, peu d'industries textiles locales. Donc on est... voilà, c'est sûr que le calcul, comme elles sont très futées, le calcul il est assez vite fait.
Voilà. Il y avait cette petite phrase, pour 3 mois, 6 mois, 1 an, le visa Schengen est le nouvel accessoire indispensable, plus complété pardon, que n'importe quel hit bag. Le Graal ne s'obtient pas d'ailleurs sans une longue série d'humiliations.
Oui, alors ça il y a 2 infos là-dedans, c'est que le visa Schengen, c'est un petit texte que j'écris justement sur cette soif de voyage. Moi vraiment, les gens que je côtoie, ils ne sont pas forcément des gens richissimes. Ça peut être des jeunes femmes en début de carrière. Elles économisent le moindre sou pour partir, pour voyager, pour être... Alors, il y a les pays sans visa. Hein, la Turquie est le plus proche et le plus fréquenté. Mais il y a toute l'Union européenne. Et vraiment, un peu la génération visa Schengen qui voyage librement, qui voyage complètement différemment par rapport à la génération du dessus. Et ça, oui, moi, j'ai très bien vu le Schengen, c'est le truc. Et alors, deuxième info, c'est les humiliations. Parce que là, je pense que, en tout cas, parler du consulat de France, les préjugés ont la vie dure. Et moi, j'ai vu des amis, y compris mariés, y compris avec des pour le coup, là, des salaires assez conséquents, donc se faire refouler ou en tout cas maltraiter, mal recevoir. Au consulat parce que il y a immédiatement ce soupçon qu'elles vont venir en France pour des raisons étranges, pour rester, etc. Donc c'est très humiliant. Et ça c'est bon. Voilà, faut pas s'étonner si elle a que boulevard Lannes à Paris, parce que on leur fait pas la vie facile.
Voilà. Effectivement. Et d'ailleurs, quand elles finissent par y arriver, obtenir ce Schengen, tu dis très bien dans le livre aussi, en quelques jours, parfois quelques heures, elles vengent des années de frustration.
Oui, mais alors ça, je l'écris dans le texte shopping, mais en fait, c'est vrai sur tout. C'est vraiment la nouvelle génération là, de Moscovites. C'est des gens mais qui sont d'une curiosité absolument insatiable. C'est ça qui est génial. Et c'est aussi ça qui fait que c'est finalement facile de faire des rencontres. C'est que, en fait, les étrangers, du moins européens, parce que bon, on va pas dire qu'il n'y a pas de xénophobie, mais les étrangers européens sont extrêmement bien accueillis et priés immédiatement de raconter c'est comment chez vous. Voilà.
D'accord. Et alors, on a abordé ce point tout à l'heure très rapidement. On en revient à la question, mais alors pourquoi font-elles tout ça? Pourquoi tous ces efforts qui sont qui me paraissent ici en France démesurés presque par rapport à ce que vous avez fait?
Bah, j'ai effectivement un peu abordé. Moi, je crois que c'est effectivement. Alors, la première lecture, ce serait de dire c'est pour les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui me répondent c'est pour les femmes, dans le sens où il y a une vraie concurrence entre femmes. Et donc, voilà, un truc comme ça. Donc, elles sont bien parce qu'elles se savent regarder, scruter. Donc, ça, c'est la deuxième lecture. Et la lecture, moi, je pense, de fond, c'est ce que j'abordais, c'est-à-dire une revanche et un combat. Un combat parce qu'il faut s'imposer dans cette société. C'est pas des femmes oisives, des femmes qui travaillent, qui sont là, et faut y aller, quoi.
Effectivement, il y a une partie de personnes en activité, travail très importante, je veux dire. Je crois qu'il y a au moins 50% de femmes actives.
C'est aussi un héritage, hein, c'est que les femmes russes sont parmi les femmes les plus éduquées en termes d'accès à l'éducation au monde. Et que oui, elles travaillent. Alors après, il y a des grosses interruptions de carrière liées aux grossesses. Mais oui, à Moscou, les femmes sont des femmes actives. Disons, la caste de la Rubliovka, où c'est donc des très riches, où là c'est un tout petit peu à part. Mais la moscovite moyenne, elle bosse.